Soyons politiquement corrects, et pas du tout pour éviter qu'on soit blessé, heurté, choqué, non. Soyons politiquement corrects pour preuve de notre créativité. Les périphrases qui tournent autour du mot, vous savez, les euphémismes qui l'adoucissent, les néologismes qui le remplacent, ils peuvent bien vous agacer, vous pouvez les trouver grotesques, vous pouvez les tourner en ridicule, les moquer si vous voulez, mais admettez quand même qu'ils ne font de mal à personne, c'est même l'une de leurs fonctions. Et reconnaissez qu'ils augmentent la langue beaucoup plus qu'ils ne l'effacent. C'est vrai, le politiquement correct convoque plus de mots, quitte à en inventer. Il nous force à réfléchir avant de parler. Il exige des tours et des détours langagiers tellement vertigineux parfois que ça vous laisse bouche bée. Le politiquement correct, comme on le nomme, même si ce nom est aujourd'hui tellement connoté qu'il faudrait sans doute en trouver un autre pour ne froisser personne. Le politiquement correct a ceci de fascinant pour quiconque s'intéresse à la langue, qu'il ne cesse de la penser vivante, de refuser qu'elle soit figée, de lui imaginer un autre avenir. Et puis, il faut maîtriser ses figures de style, esquisser des pas de côté, nommer autrement ce que par habitude ou par paresse on pensait établi. C'est vrai que le but est d'éviter de discriminer, mais c'est aussi d'interpeller, de surprendre, de provoquer une réflexion. Le politiquement correct, en fait, et au risque de choquer, ça se rapproche de la poésie. Que n'ai-je pas dit ?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il jamais cédé au politiquement correct ? Il est incontestablement l'un des plus grands auteurs américains vivants depuis moins que zéro. En 34 ans, on lui doit une petite poignée de livres seulement, dont American Psycho et Glamorama, rien que ça. Dans White, son premier livre de non-fiction, il passe au crible de son impitoyable plume, son pays, son époque, souvent provoquant, parfois clairvoyant. Bonjour, Bret Easton Ellis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Ça vous arrive, entre vous et moi, quelquefois, d'être politiquement correct, vous?
That's a very good question. Well, you
c'est
know,
une excellente question. Vous savez, le politiquement correct suggère l'inauthenticité. Il suggère que vous êtes quelque chose que peut-être vous n'êtes pas réellement. En tant qu'artiste et qu'écrivain, j'ai toujours cru en l'authenticité, en la transparence, bonne et mauvaise, parce que nous sommes tous pétris de contradictions, de bonnes pensées, de mauvaises pensées, nous réagissons beaucoup aux choses, et le politiquement correct vous transforme en une sorte de carapace vide. Vous suivez les règles de la société, bonnes ou mauvaises. Et je ne sais pas ce que le politiquement correct fait à un artiste. Et en fait, en y repensant, j'ai toujours été politiquement incorrect.
En quoi, à votre avis, apparaissez-vous, Bret Easton Ellis, depuis vos débuts, comme un individu politiquement incorrect ?
Eh bien, tel que je le vois, en exprimant ma vérité, et pour certaines raisons, pour certaines personnes, cela veut dire agir de façon politiquement incorrecte. Et je dois dire que d'un autre côté, beaucoup de gens aiment ça. Beaucoup de gens aiment l'honnêteté, la transparence. Et je crois que finalement, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui me répondent, et aussi pourquoi tellement de gens me répondent de façon négative, parce qu'ils n'aiment pas que je sois politiquement incorrect. Mais la moitié du public y répond vraiment favorablement. Et je pense qu'il y a de l'honnêteté, de la vérité, que l'autre moitié ne veut pas entendre.
Dans quelle mesure est-ce que ça vous amuse, vous ?
Eh bien, tout le monde aime à dire que je suis un provocateur, que j'aime provoquer. Mais je n'aime pas vraiment provoquer. On ne peut pas faire une carrière en tant que provocateur. Je ne peux pas tenir 3 ans, 4 ans à écrire un livre simplement pour provoquer ou pour choquer quelqu'un. Je pense que c'est vide de sens. Ça ne m'amuse pas tellement. Je dois toutefois dire que, avec ce livre, qui a scandalisé l'Amérique, qui a scandalisé le Royaume-Uni, d'où j'arrive ce matin, c'est dans la presse, c'est la presse généraliste, c'est pas le public. Mon public semble aimer le livre, mais c'est la presse qui a été très critique. Ça m'a légèrement amusé, et ça m'a amusé aussi la façon dont ça fait bouger les millénials.
Mais pour autant, est-ce qu'il y a un prix à payer lorsqu'on refuse, pour reprendre vos mots, d'entrer dans le moule de la pensée unique, à plus forte raison quand on travaille à Hollywood ?
Eh bien, je travaille à la marge d'Hollywood, dans l'Hollywood indépendant. Je suis certain qu'à cause de mes podcasts et parce que je suis plutôt sans détour sur les réseaux sociaux, j'ai probablement raté quelques contrats. Mais je suis connu comme anticonformiste, un peu excentrique. Les gens me comprennent. Je ne suis pas non plus obligatoirement ce pro-Trump, ce pro-conservateur.
Ce dont on vous a accusé.
On m'a accusé de cela et je ne sais pas sur quoi on se base. Si vous ne critiquez pas Trump, alors vous devenez un soutien de Trump. Je ne me promène pas avec une casquette redonner sa grandeur à l'Amérique. Je ne passe pas mon temps à tweeter mon approbation à certaines décisions politiques insensées et racistes. Ce n'est pas moi. Mais si vous commencez à critiquer la gauche et les libéraux qui ont exagéré et sont devenus hystériques au sujet de Trump, alors vous êtes pris pour un traître, un complice de Trump.
Alors ça, c'est passionnant. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, Brett Easton Ellis, limite notre liberté d'expression, nous amène à pratiquer une forme d'autocensure? Parce que c'est ça que vous dites, en fait.
Je crois que tout est lié à ce que j'appelle cette notion de culte de la likabilité, de l'aimabilité. Il y a tellement de gens qui veulent être likés. Les réseaux sociaux vous forcent à devenir quelqu'un que vous n'êtes peut-être pas, une sorte d'acteur. Sur Instagram, tout le monde veut être liké. Et ça vous transforme en une sorte de portrait idéalisé de vous-même, qui n'est pas factuel, qui n'est pas authentique. Et c'est ça, je pense, qui nous stresse tant et nous rend malheureux.
Ces réseaux sociaux, Brett, ils invitent aussi à s'exprimer à tort et à travers, de manière impulsive, d'être beaucoup plus du côté de la réaction que de la réflexion. De quel côté est-ce que vous vous situez, vous ? De la réaction ou de la réflexion ?
Évidemment, en tant qu'écrivain, on réagit au monde qui vous entoure, on tente de lui donner un sens. Et c'est ce que j'ai fait avec White. J'ai tenté de comprendre où cela nous menait. Où cette réaction outre mesure, cette hystérie, non seulement sur le terrain politique, mais sur tant d'autres terrains qui annulent la culture. Quelqu'un dit quelque chose de mal, on l'annule. Toute cette notion de horde de trolls qui pourchassent les gens à cause d'une petite chose idiote qu'ils ont dite. Où est-ce que cela va s'arrêter? Je pense que la fin de partie sera négative. Et j'en préviens les gens qui, par exemple, n'aiment pas Trump. Et je suis très contrarié que Trump soit président. Ça fait 3 ans que je suis effondré à cause de Trump. Je leur dis qu'ils devraient plutôt se regrouper, l'ignorer, se rassembler pour le dégager en 2020. Mais je crains qu'il soit trop tard.
Le problème de ces réseaux sociaux, c'est surtout qu'on les prend trop au sérieux. Vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous prenne au sérieux? Sérieux, vous aussi, Brett Easton Ellis?
Non, ce n'est pas ce que j'aime le plus au monde. Je ne pense pas que la vie devrait être prise trop au sérieux. Je ne pense pas que la politique devrait être prise au sérieux. Les réseaux sociaux ne sont pas réels. Les réseaux sociaux sont fabriqués. Twitter n'est pas réel. J'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un peut être offensé par un tweet. Pourquoi un tweet peut vous pousser à appeler Twitter et exiger l'annulation du compte de l'offenseur. C'est vraiment prendre les choses trop au sérieux. En tant qu'auteur, je peux prendre mes écrits très au sérieux. Je peux entreprendre un livre très sérieusement. Mais la vie, comment dire ? Eh bien, elle va vous faire trébucher si vous la prenez trop au sérieux. Il faut la prendre un peu à la légère, la regarder avec un peu d'humour.
Alors, vous parlez beaucoup d'offense et de victimisation. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, cette culture de la victimisation aujourd'hui, selon vous ?
Je parle dans le livre de gens qui se sentent trop offensés. Rien ne m'offense. L'art ne m'offense pas. Je ne me suis jamais senti offensé par un livre, par un film, une musique, un tableau. Désormais, les gens sont constamment offensés. Leur délicate petite sensibilité n'en peut plus. Ou bien alors, est-ce qu'ils mentent? Est-ce une façon de se victimiser? Et quand on se victimise, bien sûr, on reçoit plus de likes, on a plus de followers, de gens qui vous suivent, des gens qui veulent interagir avec vous, vous dire à quel point ils ont de la peine pour vous, à quel point c'est horrible. Et pour beaucoup de victimes, je crois que ça agit un peu comme de l'héroïne. Ça fait du bien.
Oui, mais cette culture que vous dénoncez, que vous le vouliez ou non, vous y participez aussi un peu, d'une certaine façon. Brett Easton Ellis, ce livre en est la preuve. Vous venez de me dire que vous éprouviez une sorte de plaisir quand même à voir les attaques de la part de la presse que vous aviez subies. Quel genre de victime est-ce que vous êtes-vous?
Un genre de... Allez, un tout petit peu. J'étais légèrement amusé. Mais j'ai écrit ce livre de façon très solitaire. J'étais seul avec lui pendant des mois et des mois. Et j'ai rien publié depuis 10 ans. Je recherche pas à attirer l'attention. Je ne veux pas vous provoquer. Je veux pas vous offenser. Je crois plutôt que White est un appel au calme. Être calme face aux démons, à l'Hitler orange, à qui que ce soit à la Maison Blanche. Il faut être rusé et calme pour traverser ce monde et s'arracher les cheveux et hurler et s'effondrer. Eh bien, ça va rien résoudre. Je crois aux manifestations. C'est sain de protester. Mais il faut tous protester, mais cette résistance particulière aux États-Unis, elle a échoué.
Et pourquoi vous n'arrêtez pas Twitter définitivement?
Je l'ai fait en quelque sorte. Je l'utilise pour promouvoir mon podcast, le Bret Easton Ellis podcast, mais je n'utilise absolument pas Twitter comme la célébrité dit que je l'utilise, c'est-à-dire d'être scandaleux.
Provocateur.
Pendant 2 minutes. Ça n'a duré que 2 minutes.
Mais moi, ce qui me fascine, c'est ça. C'est pourquoi ce besoin généralisé aujourd'hui de donner son opinion sur tout et sur rien, de la rendre publique, pour montrer qu'on existe, en fait, tout simplement, pour pas être oublié.
Mais
non, c'est pas que les gens aient des opinions. C'est que les gens... En fait, pour pouvoir être entendu, vous savez, il y a des milliards de gens sur les réseaux sociaux. Il faut souvent être dans l'hystérie. Il faut quasiment surréagir pour faire entendre sa voix.
De ne pas être entendu, c'est quelque chose qui peut vous faire peur, vous, Bret Easton Ellis?
Mais je n'ai pas publié de livre depuis 10 ans.
C'est vrai.
I don't care.
Je m'en fiche. Je publie tellement peu souvent. Si ça m'importait, j'arrête pas de publier et de republier. Tenter d'obtenir un prix littéraire. En fait, j'en ai reçu un ici en France. Mais non, je ne suis jamais entré en littérature pour la célébrité. J'ai grandi à Los Angeles où la célébrité, c'était une blague. Je ne la poursuis pas. Je ne m'en nourris pas. Et j'étais parfaitement heureux pendant 10 ans dans ma petite grotte à Hollywood West.
Ah, vous savez qu'il y en a une qu'on risque pas d'oublier dans cette émission et qui a même, paraît-il, un compte Twitter. C'est la culture et son actualité qui se la ramène un petit peu trop souvent, pas forcément pour le meilleur. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 6 mai?
Les gilets jaunes, c'est un mouvement de contestation sociale. Les gens, ils demandent l'augmentation des salaires et qu'on s'occupe un tout petit peu de la planète.
L'heure du jaune, dans une tribune intitulée « Gilets jaunes, nous ne sommes pas dupes » publiée sur le site de Libération, 1400 acteurs du monde de la culture et des arts apportent leur soutien au mouvement social qui dure depuis 25 semaines. Signé par Juliette Binoche, Annie Ernaux ou encore Robert Guédiguian, le texte dénonce la répression et réclame des choses essentielles, une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, des mesures radicales face à l'état d'urgence écologique. Une pétition de soutien a également été lancée sur nous-ne-sommes-pas-dupes.fr. Pour l'éternité, elles aussi, le 7 juin prochain, la Coupe du Monde féminine sera lancée en France, et puis presque intégralement diffusée sur TF1. Et la chaîne vient d'annoncer que c'est à la chanteuse Jane que reviendra l'honneur d'ouvrir les festivités lors d'une cérémonie au Parc des Princes. L'artiste à qui l'on doit notamment les tubes Makeba, Alright, y donnera un concert événement devant 47 000 personnes. Elle interprétera aussi son titre Gloria, retenu pour être l'hymne officiel de la compétition You Go Girls.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris.
Entre le bouquin et le poster, pourquoi choisir? Le Bookster est un livre entièrement imprimé sur une affiche que l'on peut encadrer puis accrocher au mur. L'association Bibliothèques sans frontières et l'éditeur des Bookster viennent de s'associer donc pour proposer le classique Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sous forme de livre poster. Il sera vendu 40 € et tous les bénéfices seront reversés à BSF qui travaille depuis 2007 à apporter connaissance et lecture aux gens les plus démunis de la planète. Big up.
Je suis auteur et réalisateur, on va dire. Je suis marseillais.
Plus triste la vie, l'auteur de Polar, scénariste et réalisateur de plus de 400 épisodes de notre feuilleton populaire préféré, Philippe Carrez, est mort hier. Il avait 63 ans, figure emblématique de Marseille. Il avait su saisir, non sans humour, ses gloires comme ses travers. Lisez Enclave, Le bal des cagoles ou encore sa série de jeunesse, Marseille, quartier sud, R.I.P. L'écrivain américain Bret Easton Ellis, invité de Boomerang ce matin pour White, en librairie depuis jeudi, un livre qui n'est pas un roman, mais une suite de réflexions sur votre vie, votre enfance, votre époque. Bret, pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de délaisser ce que vous appelez l'enclave truquée du roman pour vous consacrer à d'autres formes, d'autres médiums comme celui du podcast ou des séries télé, tiens?
Eh bien, je pense que j'ai écrit beaucoup de livres, beaucoup de romans. Et je suis arrivé à un point où je me suis rendu compte que j'avais dit tout ce que j'avais à dire avec le roman, certainement avec Lunar Park. Et je pense que j'ai eu un peu plus à dire avec Suite Impériale. Mais je voulais vraiment aller vers le cinéma, créer des émissions de télé, des séries web, travailler sur un podcast, et vraiment passer à l'ère numérique en tant qu'artiste.
Ce qui est passionnant à vous écouter, c'est que vous êtes quand même un écrivain qui a écrit deux des plus grands romans du siècle dernier, qui saisissaient les années 80 et 90, American Psycho et Glamorama, qui étaient ceux qui se rapprochent le plus de ce rêve historique chez les romanciers outre-Atlantique d'écrire ce qu'on nomme le grand roman américain. Et force est de constater, vous l'écrivez dans White, que le roman n'engage pas le public avec la même intensité qu'auparavant. Dans quelle mesure est-ce que le roman est un genre littéraire dépassé pour vous, Bret Easton Ellis?
I don't know. It's just something that I have.
C'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai ressenti au cours de ces dernières décennies. J'aime les romans, j'en lis tout le temps, j'en emporte avec moi en faisant les tournées européennes. Je lis tous les matins. Le roman me donne beaucoup de plaisir, de paix de l'esprit, ça me calme, ça me donne de l'empathie. Je me mets dans la peau des gens. Je crois que j'en ai assez écrit, que j'ai exploré les thèmes que je voulais explorer avec le roman. Toutefois, je vais vous dire, en écrivant White, ça a été une expérience littéraire. C'est un livre de non-fiction, mais je voulais qu'il ait une qualité littéraire. Et je voulais qu'il soit lu comme un livre, qu'il y ait un rythme de narration. Et je dois dire que, en écrivant White, ça a déclenché l'envie d'écrire peut-être un nouveau roman. Mais je ne sais pas si ce sera un livre audio seulement, un livre que l'on écoute. Ça m'intrigue beaucoup ce médium. Et je vais peut-être le tenter cet été.
Il parlera de quoi?
Ah ben, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas passer des années à l'écrire. Je vais l'écrire très très vite et voir si ça fonctionne. Ça m'intéresserait de capturer l'air du temps. Et j'y pense pendant que nous parlons.
Ce refroidissement de l'excitation à tous les niveaux de la culture a à voir avec la notion qui disparaît d'investissement. Quand vous vous rendiez dans une librairie ou dans un magasin de disques ou dans un cinéma ou encore dans un kiosque à journaux, vous preniez le temps d'investir un plus grand effort physique et une plus grande attention dans ces expéditions que lorsque vous cliquez sur quelques boutons. Mais que se passe-t-il lorsque les choses sont presque automatiquement disponibles? Cette absence d'investissement rend tout équivalent. Si tout est disponible sans effort ou sans un récit dramatique quelconque, qui se soucie de savoir si vous l'aimiez ou pas? Et l'excitation trépidante, le suspense lié à l'effort que vous faisiez autrefois pour trouver une image érotique, c'est maintenant perdu avec la facilité basse fidélité de l'accessibilité qui a en fait changé notre expérience de l'attente. Au-delà du constat très pessimiste, mais assez juste que vous faites de notre époque, Bret Ellis, dans un monde du tout de suite, quel est l'avenir de l'art pour vous?
Écoutez, je me dois d'être optimiste. Oui, peut-être. Une forme d'art différente, peut-être. Je connais des jeunes qui ne lisent pas de livres et qui pensent que Instagram est une forme d'art. Je plaisante pas. Les millénials considèrent mes récriminations comme celles d'un vieux. J'aime la pellicule, j'aime les pages, j'aime le vinyle, j'aime les disques. J'aime écouter tout le disque. Je ne suis pas un fan de singles. Mon petit ami qui est beaucoup plus jeune n'écoute qu'un morceau sur YouTube. Moi, je vais écouter l'intégralité du disque. Je veux entendre ce que l'artiste a à dire avec sa musique. Et c'est ce qui fait de moi un vieux. Mais ma génération s'était engagée dans les objets. On faisait des files d'attente. On allait quelque part pour acheter un livre. On faisait la queue pour aller au cinéma. Je crois qu'il y avait là quelque chose dans cet engagement à l'ère de l'analogique qui faisait qu'on s'intéressait plus à l'art.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, Bret Easton Ellis, de raviver cette notion d'investissement dont vous parlez, de redonner du sens à l'attente? On ne va pas s'avouer vaincu quand même.
Les gens regardent encore des films. Les gens regardent encore des œuvres d'art. Les gens lisent encore des livres. Je ne peux pas être aussi pessimiste que ça. Je vois vraiment mon jeune compagnon, il a 32 ans, très distrait par les objets. Il lui est difficile de se concentrer sur les choses. Il lui est difficile de rester assis pour un film un peu longuet ou pour un livre. Il a 5 écrans ouverts. Il parle avec quelqu'un, il regarde les infos, il joue à un jeu vidéo. Il a 5 sites politiques qui se déroulent sur YouTube. Et il lui est très difficile de s'asseoir et d'avoir une conversation en tête à tête avec moi, ou même de m'écouter. Mais je j'ai de l'espoir et je suis optimiste. Ici, en parlant avec vous, et je lis des livres, et je regarde des films, et je recherche le plaisir.
Et on écoute encore des albums en entier. Alors ce matin, évidemment, on va pas se passer un album en entier, mais un single, sacrilège, mais un single que vous aimez bien, je le sais, parce que vous la citez, cette chanson. Et il se trouve que je l'aime bien, moi aussi, The Bangles, Manic Monday, en 1985, ça tombe bien, on est lundi, vous êtes sur France Inter, avec Bret Easton Ellis, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
On est quelque part entre Truman Capote, Jean-Claude Van Damme et le père Fouettard. Je crois que les choses sont claires. Avec son cheveu blanc, bien peigné, bien comme il faut, ses lunettes à la Mad Men qui masque à peine son regard plein d'ironie, son sourire un peu de travers, un peu grimaçant. Il a quelque chose du mauvais garçon repenti, quoique, tout en jogging noir ce matin avec un petit crocodile vert. Quelque part, on dira pas la marque, l'écrivain américain Bret Easton Ellis, invité de Boomerang ce matin pour son nouveau livre White, où vous revenez notamment, Bret, sur cette enfance en Californie dans les années 70. Quel genre d'enfance c'est ce que vous avez eu?
J'ai eu une enfance très ouverte. C'est-à-dire que j'étais extrêmement libre de toute surveillance parentale. Mes parents n'étaient pas là, ni les parents de la plupart de mes amis. On nous laissait à nos propres affaires. Nous étions entre nous. Et je crois que c'est ce qui nous a aidés à grandir beaucoup plus vite que la génération qui a été très bichonnée et protégée par les parents.
En quoi une enfance comme celle-ci, sans aucune supervision parentale, c'est ce que vous racontez, est inenvisageable pour vous dans l'Amérique d'aujourd'hui?
C'est le cas. Et j'aime pas jouer au vieux en disant « Ah, moi, j'allais à pied à l'école à 5 pâtés de maison de chez moi lorsque j'avais 5 ans, 6 ans. J'y allais, j'en revenais. » Aujourd'hui, la police arrête les parents pour ce genre de choses, pour avoir laissé leur enfant de 5 ans aller à pied à l'école seul. Ça n'existe plus. Mais une autre chose qui m'est arrivée en grandissant dans les années 70, c'est le cinéma. C'était l'âge d'or du cinéma américain. Mes amis et moi, on est tous devenus dingues de cinéma. On voulait tous faire des films à cause des grands films américains des années 70. Et ces films nous ont fait aussi grandir un peu plus vite parce qu'ils étaient durs, pessimistes, avec des fins tristes. La vie n'était pas facile, elle n'était pas enthousiasmante. Et ça aussi, ça a été une influence.
Mais Bret, honnêtement, à aucun moment vous vous êtes dit que vous auriez aimé évoluer dans un monde plus protégé, justement, un monde où vous n'auriez pas été exposé à tant de violence?
Oh, of course.
Mais bien sûr. Of course. I mean, bien sûr, et de tellement de points de vue, j'aurais aimé avoir eu une éducation différente de celle que j'ai eue avec un
was abusive,
un père violent,
you know, and an alcoolic,
alcoolique,
and was both,
et je dirais qu'il était à la fois malheureux avec moi,
c'est
qu'il avait en quelque sorte les mains liées, pas seulement parce qu'il faisait partie de la génération des baby-boomers, très narcissiques, très enfermés dans sa propre vie, et pas très intéressés par ses enfants. Mais, oui, mais ça s'est pas fait, et j'ai dû l'accepter, et je peux pas m'en plaindre, je peux pas me qualifier de victime parce que mon papa m'a fait du mal. Et donc j'en ai fait un sujet d'écriture. C'est comme ça que je traite les choses. Je l'écris. C'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Ce qui est intéressant, c'est que cette violence, vous vous y confrontez aussi à travers vos lectures et à travers le cinéma que vous venez de mentionner, le cinéma d'horreur notamment. Qu'est-ce que le cinéma d'horreur des années 70 reflétait de cette époque ?
Les
films d'horreur, eh bien, ils n'étaient pas faits pour les enfants, pour les ados. Ils étaient faits plutôt pour les adultes. Mais le monde entier était fait pour les adultes. Il n'y avait pas Marvel, il n'y avait pas Disney. Oui, il y avait des Disney, mais c'était un film merdique par an, pas comme aujourd'hui. On évoluait dans un monde adulte, allant voir des films pour adultes, et souvent c'est des films d'horreur. Et ces films d'horreur suggéraient que la vie était dangereuse, que la vie était aléatoire, qu'il n'y avait pas de réponse, que les monstres étaient lâchés. Et ça m'a donné une sorte d'indépendance. Je sentais que je grandissais, que je comprenais quelque chose du monde des adultes. Les films d'horreur étaient une métaphore du monde des adultes, de la douleur, de la déception. Et c'était pas spécialement attirant. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à passer à travers les désillusions du passage à l'âge adulte, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. J'en ai quelques mots dans cet essai. C'est intéressant parce que il y avait beaucoup, beaucoup d'autres films de cette décennie qui m'ont vraiment profondément influencé. Je ne parle que des films d'horreur ici, mais bien entendu, il y a eu des grands films qui m'ont beaucoup plus influencé que La Maison des Damnés ou Théâtre de Sang.
Ou Carrie, ou L'Exorciste.
Carrie, c'est un grand film.
À aucun moment, Bret Easton Ellis, vous n'avez cru qu'il était en votre pouvoir de faire changer le monde ?
Yes.
Oui.
J'ai jamais réfléchi
au monde. Le monde est fou. Comment pourrais-je changer le monde ? Vous savez, étrangement, on pense le faire simplement en écrivant un roman. Le roman est publié au monde et il pourrait changer la vie de quelqu'un. Et je vois ça à chaque fois que je me rends à une signature de livre. Des gens viennent me voir et me disent « Ah, vous savez, moins que zéro, ça a changé ma vie. J'ai voulu devenir écrivain. » C'est merveilleux, j'adore ça, mais ce n'est pas mon intention. Je ne peux pas écrire un livre en pensant que c'est mon intention.
Mais accepter le monde tel qu'il est, est-ce que ce n'est pas aussi d'une certaine façon accepter de s'en faire le complice ?
Oui, probablement. Et alors, si j'en suis complice, ça change quoi ? Que vais-je y faire ? Je vais cesser de m'exprimer, cesser d'écrire mes livres. Mais non.
Je vais vous dire, moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant dans votre livre, c'est cette façon que vous avez sans cesse de revenir sur votre éducation. Une éducation très virile, qui a fait de vous un dur, sont les mots que vous employez, un Bret Easton Ellis qui vous a préparé à tout encaisser. J'ai l'impression que vous avez du mal à accepter qu'il n'en ait pas été de même pour tout le monde.
Of course they didn't. So what am I supposed to do?
Alors, qu'est-ce que je suis censé en faire? Est-ce que je dois me rétrécir? Je dois supprimer mon individualité parce qu'il se trouve que je suis cette personne qui a ces capacités. Oui, on peut être très compatissant envers l'injustice du monde et la façon dont ça se passe. Mais jusqu'à un certain point, à moins de se détruire soi-même, je l'entends. Je suppose que c'est vrai, mais que suis-je censé en faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est ce qui se produit actuellement aux États-Unis. Allez, faites disparaître votre blanchitude, votre masculinité, votre façon d'être mâle, c'est mauvais, mauvais, mauvais homme blanc. Que dois-je faire ? Est-ce que je suis censé me pelotonner dans un coin et dire pardon, pardon, je vais plus m'exprimer en tant que quoi que ce soit parce que le monde est tel qu'il est ? Oui, j'ai de la compassion. Mais allez, quand même, nous ne vivons pas dans une telle utopie de justice où tout le monde est égal, où tout le monde est pareil, on a tous les mêmes valeurs, nous vivons tous la même vie. Mais tout ça, c'est des conneries progressistes. Et je crois que c'est la raison pour laquelle notre pays est tel qu'il est, avec toutes ces pleurnicheries victimaires et tous ces trucs qui n'aident pas à la conversation et qui divisent les gens.
Là, on est au cœur de votre livre. White était vraiment sur ces sujets. Mais pour autant, Bret Easton Ellis, est-ce qu'il faut forcément être dur ? Est-ce qu'il faut seulement être en mesure toujours de tout encaisser ?
Je ne pense pas du tout être dur. C'est étrange, à cause de ce livre et des positions que j'ai prises récemment, qu'on me qualifie de dur, de courageux, alors que je ne me suis jamais considéré comme tel. Mais je pense qu'en ce moment, culturel, dire exactement ce qu'on le ressent au sujet de l'actualité, de la situation de mon pays, d'être totalement honnête, sans conneries, dire aux gens ce que je ressens, je pense que ça veut dire être courageux. Mais c'est triste si tel est le cas. C'est triste que je sois vu comme étant si dur et si courageux, simplement en donnant mon opinion sur des trucs. Et ça prouve ce que j'avance dans mon livre. Je ne ressens pas le besoin d'être dur. Je ne prends pas de masque. Je ne prends pas une posture ici avec vous. Je suis tout à fait honnête avec vous. Je ne suis pas en train de jouer. Je vous dis exactement ce que je pense. Et je suis avec vous comme quelqu'un dans une émission de radio. Je ne ressens pas le besoin d'être dur. Je pense que d'une certaine manière, la vie rend tout le monde dur, sinon on quitte la scène. La vie vous durcit, oui ça le fait. Vous allez mourir, c'est ça la réalité. Et il vaut mieux en venir au point où l'on accepte tout, on le comprend bien, il y aura beaucoup de mauvaises choses, les gens ne vont pas vous aimer, je ne serai pas aimé en retour, mes parents vont tomber malades, la vie n'est pas facile. Il vaut donc mieux lui faire face et faire avec, plutôt que de se cacher derrière, je ne sais pas quoi, cette notion puérile de victimisation, de politique identitaire et tous ces autres trucs, supposés donner un narratif aux aléas de la vie. La vie n'a pas de narratif.
Mais vous, Bret Easton Ellis, entre nous deux, à quel moment est-ce que vous êtes le plus faible ?
Quand donc ai-je été le plus faible ? Le plus faible, probablement, c'est lorsque j'étais amoureux et lorsque ça n'a pas marché en ma faveur. Et ça m'a rendu faible. Ça s'est pas produit souvent dans ma vie, ça s'est arrivé une ou deux fois. Et en y repensant, c'est le moment où j'étais le plus faible. Et je ne contrôlais plus mes émotions, comme je le fais d'ordinaire, de façon naturelle. Mais vivre une histoire d'amour qui ne va pas évoluer de manière favorable pour vous, que vous allez être quitté par quelqu'un que vous n'intéressez pas autant que vous le pensiez, et qui s'en va, et ben c'est à ce moment-là que j'étais le plus faible.
Merci infiniment, Bret Easton Ellis, et merci à votre interprète ce matin le plus glamour que Psycho, Michel Zlotowski. Je rappelle que White, traduit par Pierre Guglielmina, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. C'est aussi dérangeant que stimulant, et c'est un livre qui nous invite au dialogue. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu. Nul ne voit le grand soleil qui fait briller dès le réveil ce regard bleu.
Bleu, Karen Anne sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M.